Bonjour, je suis Lionel Sauté, bienvenue dans L'Avenir est à la campagne, le podcast. Pour les deux prochains épisodes, je vous propose d'entendre l'entretien que j'avais réalisé au printemps dernier de Claire Desmarres-Poirier, autrice du livre « L'exode urbain manifeste pour une ruralité positive » paru en août 2020 aux éditions Terre Vivante. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et merci beaucoup de m'accorder un peu de votre temps que je sais précieux. Vous êtes agricultrice, vous êtes libraire, vous êtes autrice donc, installée en Bretagne depuis 10 ans, en Ille-et-Vilaine, dans une commune de 2000 habitants qui porte le nom de Sixte-sur-Affe, qui est située entre Rennes, Vannes et Nantes. Votre parcours, vos réflexions qui vous ont poussé à l'écriture de ce livre, vous ont poussé également à vous engager sur le terrain public, politique, puisque vous êtes tête de liste du parti Europe Écologie Les Verts pour les élections régionales de 2021 en Bretagne. Est-ce que j'ai tout bon sur cette présentation et est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter pour la compléter?
Non, c'est vraiment parfait.
On commence bien. Alors nous, dans le cadre de ce podcast et de ce projet en général, L'Avenir est à la campagne, on s'interroge sur la notion de ruralité. Qu'est-ce que signifie habiter la campagne aujourd'hui? Et puis comment l'histoire et le présent de nos territoires ruraux peuvent nous permettre de rêver notre avenir? J'ai beaucoup aimé votre livre, notamment parce qu'il a une approche très positive de la vie à la campagne, peut-être même parfois un peu idéalisée, on y reviendra. C'est à la fois un livre témoignage d'un parcours, le vôtre, un parcours intellectuel, un parcours pratique, qui vous a amené à affirmer, comme nous, vous aussi, l'avenir est à la campagne. Mais c'est aussi un ensemble de réflexions, de mises en perspective autour du phénomène de l'exode urbain, une aide pour ceux qui s'interrogent déjà à sauter le pas et à quitter la ville avec un côté pratique, mode d'emploi pour quitter la ville. Donc ma première question, elle est assez simple. Pourquoi ce livre et à destination de qui?
Moi, j'ai fait ce livre parce que depuis 10 ans qu'on a monté ce projet à Sixte-sur-Affe, donc on produit des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique et on a un café-librairie sur la ferme qui nous permet d'accueillir le public et de partager autour des plantes et de proposer une offre culturelle sur notre territoire, des lectures, des concerts, de la danse, du théâtre. Enfin, voilà, on est un petit lieu culturel associatif. Depuis qu'on a créé cet espace, on a fait beaucoup de rencontres. Et ces dernières années, je dirais ces 2-3 dernières années vraiment, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui souhaitaient sauter le pas et qui venaient nous voir pour des conseils, pour confronter justement leur idéal au réel, pour lever des peurs, beaucoup de peurs. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de ce matériau, de ces échanges qui sont souvent très intimes, et de me dire, voilà, je sens cet appétit-là monter. Il y a 10 ans, quand on est parti, on passait pour des marginaux. Aujourd'hui, on passe pour des précurseurs. J'avais envie de comprendre ce qui s'est passé entre les deux et de comprendre ce qui motive aujourd'hui ce nouveau regard sur les territoires ruraux. Moi, j'ai l'intime conviction depuis toujours que l'avenir est à la campagne et je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent cette intuition. Et donc l'idée de ce livre, c'était à la fois de poser un discours sur la ruralité que j'appelle ruralité positive, mais qui est aussi une forme d'affirmation. Je parle de rural pride pour parler un peu des modes de lutte anglo-saxons de toute forme de domination. Je pense qu'il existe vraiment un rapport très violent entre les espaces urbains qui sont culturellement dominants et les espaces ruraux qui se sentent dominés. Et j'avais envie d'affirmer quelque chose de la possibilité d'un choix, de la possibilité d'une fierté, de la possibilité d'une aisance dans le fait de dire bah, « en fait, je suis bien ici, j'ai pas envie de partir, j'ai pas besoin de partir pour réussir ». Donc il y avait à la fois ce fait un peu, j'ai envie de dire un peu, enfin pas un peu, vraiment politique, d'affirmer un nouvel équilibre entre les territoires. Et puis il y avait aussi l'envie de répondre à toutes les questions qui m'étaient posées régulièrement et de partager mon expérience puisque c'est de là que je pars. Mais parce que c'est souvent les questions qui me sont posées. Après ce que je fais dans le livre, c'est pas de partir de mon expérience personnelle pour aller vers le général, c'est plutôt de partir de mon intime conviction et de l'illustrer humblement par la manière dont nous, on a pu procéder, en partageant aussi les déceptions, les échecs, les moments où notre idéal s'est fracassé sur le mur de la réalité aussi, quoi.
Oui, ça le rend précieux aussi parce qu'il y a des témoignages qui nous font partager aussi effectivement ce que vous avez traversé. C'est aussi ce qui rend le livre précieux parce qu'il est proche de votre expérience, hein, il est proche de vous. Cet appétit, j'imagine, moi je le ressens aussi parce que j'ai un peu le même parcours d'urbain qui vient s'installer à la campagne. On le sent encore plus depuis les événements et la crise sanitaire qu'on traverse, ces questionnements en tout cas. Moi j'ai beaucoup de gens que je connais qui habitent encore en ville et qui se posent la question de manière encore plus prégnante aujourd'hui qu'il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, quoi. Le titre, l'exode urbain, évidemment, il rentre en résonance avec le phénomène d'exode rural qu'a connu la France, et puis la France, mais pas seulement, plus généralement, l'ensemble du globe, le fait qu'il y ait donc de moins en moins de population en zone rurale, de plus en plus, dans les centres urbains, toujours plus grands. Mais vous précisez, je ne savais pas vraiment que ce mouvement avait déjà été observé en Égypte ancienne, en Grèce antique. Et bien, c'est donc depuis toujours un phénomène qu'on peut observer. Ce phénomène d'exode rural, pour quelles raisons on quitte la campagne?
Parce que depuis toujours, la cité, c'est l'espace du pouvoir. C'est l'espace du pouvoir, c'est l'espace où se concentrent les centres de décision, qu'ils soient économiques ou politiques, juridiques aussi, parce que c'était l'espace où on rendait la justice. Et que dans ce schéma-là, il y avait une forme d'idéal d'accession à la réussite et au pouvoir par le fait de quitter la ville, la ruralité qui était un espace de domination et de servage pour accéder à la ville qui était l'espace de pouvoir. Donc c'est absolument pas nouveau. Et par contre, ça a pris une ampleur phénoménale au moment des Trente Glorieuses. Enfin, globalement, au moment de la première révolution industrielle dans certains pays européens, l'Angleterre notamment a été très concernée, et la France aussi, hein, dans une autre mesure. Et puis, vraiment de manière massive et définitive, j'ai envie de dire, au moment des Trente Glorieuses. Quand on parle d'exode urbain, effectivement, on parle... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'utilise ce terme. C'est parce que je pense qu'il y a eu dans l'exode rural une blessure et une situation sur laquelle on ne reviendra pas, par ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que... Je parle d'exode urbain de manière un peu provocatrice pour interpeller et pour faire le lien clairement avec cette période-là. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Les territoires ont été redessinés par cet exode rural. Les hameaux isolés ont disparu, les chemins creux ont disparu, et la ruralité a elle aussi vécu son virage industriel.
Oui, par le remembrement, vous en parlez, par le plan Mansholt en 68 qui préconise la disparition de 5 millions de petits agriculteurs entre 70 et 80, avec l'objectif effectivement d'industrialiser l'agriculture, d'agrandir les fermes, le remembrement, moderniser l'outil de production, forcer la conversion vers l'agriculture industrielle, et puis parallèlement avec plan de formation des paysans vers le salariat qui se voient eux-mêmes offrir entre guillemets la possibilité d'une condition de sortir de leur condition de bouseux et de paysans. Et on a un champ lexical, l'exil, l'exode, qui fait référence à quelque chose de... Effectivement, vous en parlez, vous le dites, les mots ont un sens, la charge symbolique de ces termes pèse lourd, ça renvoie aux périodes de guerre. Bon, on peut faire une petite parenthèse sur le couvre-feu qu'on vit en ce moment, mais c'est un exil, quoi. Il y a une défaite là-dedans. Il y a quelque chose de sombre.
Et de toute façon, il y a une défaite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, considérer que les gens sont partis seulement pour le rêve d'une vie meilleure. Ils sont partis aussi sous la contrainte. On est après-guerre. Jusque dans les années 50, jusqu'au milieu des années 50, il y a une grande partie des territoires ruraux en France qui sont rationnés. Donc, on est sous le régime du rationnement. Mais d'ailleurs, en ville aussi. Hein. On est sous le régime du rationnement. On n'a pas forcément de quoi nourrir toute la famille. La nécessité de partir, elle est... total. Les gens ne partent pas que parce qu'ils sont appelés par la société de consommation, ils partent aussi parce qu'il n'y a plus de place pour pouvoir se projeter dans une vie à la campagne. Et donc, ils se disent, bah voilà, j'ai pas le choix, il faut monter dans le train du progrès et il faut y aller. Et cette idée de non-choix, elle est vraiment au cœur du livre. C'est-à-dire que on n'a pas eu le choix de l'exode rural, en vérité. La plupart des gens qui l'ont fait n'ont pas eu le choix. Et aujourd'hui, la question se pose pour de nombreuses personnes qui vivent en ville, d'avoir le choix, de choisir l'endroit où on vit. Et quand on voit dans les sondages, c'était des sondages qui sont antérieurs à la crise du Covid, qu'on a 80% de gens en ville qui considèrent que la vie à la campagne est un mode de vie, entre guillemets, rêvé, et que de l'autre côté, on a 57% de gens qui disent « Moi, si je pouvais partir à la campagne, je le ferai. Donc, au-delà de la projection, concrètement, dans leur vie quotidienne, ils sont dans une situation de non-choix. Ils sont en ville parce que là, c'est là qu'ils ont du travail ou qu'ils ont fait leurs études ou que voilà. Mais c'est pas l'endroit où ils ont choisi de vivre. Là, moi, pour moi, la question est exactement à cet endroit-là. Exactement à cet endroit-là.
Vous donnez un exemple en Creuse. Les communes ont perdu 80% de leurs habitants entre 1900 et 2000. C'est absolument énorme. Et aujourd'hui, effectivement, vous en parlez, mais le mythe continue de demeurer. On part toujours en ville pour trouver un bon avenir, alors que le taux de chômage, il est très important. Les conditions de vie partent toujours, pas toujours à la hauteur du rêve. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez de ce que ça signifie. On en a parlé déjà un petit peu, mais au niveau symbolique, quitter la campagne pour la ville, c'est quitter un groupe familial souvent intergénérationnel, non choisi, un endroit où tout le monde se connaît, pour gagner un endroit qui glorifie l'individu plutôt que le collectif, où on peut trouver plus d'anonymat, la liberté d'être soi-même, c'est aussi ça le mythe qu'on va chercher. Vous dites que cet individu qui quitte la campagne, je cite le livre, c'est l'acteur premier de l'exode rural, mais c'est aussi l'outil fondamental de la société capitaliste. En quoi est-ce qu'il est cet outil fondamental ?
Parce que c'est aussi pour ça que dans les Trente Glorieuses, on a construit ce schéma-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en zone rurale, qu'on autoproduit une partie de son alimentation, qu'on n'est pas soumis à 70 ou 100 ou 150 aujourd'hui de messages publicitaires sans les avoir choisis, qu'on a une capacité d'entraide, de prêt, de rapport à une économie qui est non marchande, on n'est pas les mêmes consommateurs que des consommateurs urbains qui, pour pouvoir se loger, ont la nécessité de travailler. De vendre leur force de travail contre de l'argent pour pouvoir se loger, manger et consommer parce que ils sont dans des espaces où la compétition sociale est très forte, où l'injonction à consommer est complète et elle est présente du soir au matin. Donc évidemment, le rapport à la consommation et le rapport à la production et le rapport au travail n'est pas le même. Donc voilà, il y a une forme de en tout cas, je considère ça comme une forme d'asservissement dont il est très difficile de s'émanciper quand on est en ville. Donc voilà, moi ce que je défends, c'est qu'effectivement, pour avoir un autre rapport au temps, à l'espace, aux autres, à l'argent, au travail, il est quand même beaucoup plus simple de quitter la ville.
C'est ce que Pierre Rabhi nous dit en filigrane quand il nous dit que faire un potager, c'est déjà un acte politique. Il y a eu de tout temps des résistances à cet exode rural en France, notamment dans la lignée de mai 68. On pense au Larzac, son slogan « Nous voulons vivre et travailler au pays ». Vous citez aussi des exemples de réussite entrepreneuriale, en Ardèche notamment. Donc on peut le dire que la caricature de l'éleveur de chèvres dans les années 60-70 a aussi accouché de belles réussites. Ça marche aussi, ça a marché et ça continue de marcher aujourd'hui, plus que jamais.
Oui, alors moi, j'avoue qu'on m'en parle assez souvent des chèvres dans l'Arzac. Bon, en plus, dans l'Arzac, il n'y a pas beaucoup de chèvres. En fait, c'est plutôt des brebis. Mais
c'est vrai.
Il y a un cliché sur la néo-ruralité des années 70 qui est très fort et qui était aussi un moyen de folkloriser cet acte de résistance, en fait. Moi, je considère que ceux qui ont fait ça à l'époque, c'est eux les vrais précurseurs. Ils ont fait un acte hyper fort. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tout cas moi, aujourd'hui, je ne me considère pas... Je pense que cette option s'est imposée à moi. Je fais partie d'une génération qui est arrivée... Enfin, moi, j'ai été diplômée en 2008. Donc, je suis arrivée sur le marché du travail en pleine crise, des subprimes. On nous avait tenu plein de beaux discours. Et là, le réel nous a rattrapés d'un coup. Moi, j'ai vu, enfin, je veux dire, on fait partie d'une génération qui sent, qui ressent, qui ne le constate pas seulement, mais qui vit l'impact direct de l'effondrement d'un système. Et qui cherche des solutions pour trouver des réponses à ça. En l'occurrence, dans les années 70, c'était la mise en place de ce système. Il était tout puissant. Il faut imaginer qu'on est dans la guerre froide. C'est des gens qui sont antimilitaristes, alors que c'est peut-être la fin du monde, enfin voilà, 62, crise des fusées à Cuba, tout aurait pu s'arrêter, on aurait pu avoir une guerre nucléaire. Les gens vivent avec ça, en fait, au quotidien. C'est l'essor des Trente Glorieuses, c'est la nouveauté, le progrès technique, l'accès à un certain nombre de nouveaux droits. Donc, remettre en cause le progrès technique et dire qu'il peut y avoir un progrès social sans la consommation à tout crin, à l'époque, c'était incroyable. Et forcément, ça les mettait en marge, parce que le système dominant était tout puissant. Donc, mais finalement, avoir su entendre, enfin, écouter surtout chez eux, chez tous les gens qui ont été à l'initiative de ça, leur intime conviction et mener ces projets, c'est extraordinaire. Et oui, donc je donne l'exemple d'Art de l'Aisne, par exemple, ou de Terre Vivante, ma maison d'édition, qui sont des projets qui sont nés à cette époque, dans des espaces militants, et donc qui sont des structures coopératives, et qui ont une longévité qui est vraiment exemplaire, et qui ont su conserver leurs valeurs à travers le temps. Donc oui, je pense qu'au contraire, on doit s'inspirer, on doit regarder avec attention la manière dont ils ont pu construire ces projets, dont ils ont pu s'ancrer dans des territoires, dont ils ont pu accompagner le développement de ces territoires. Je pense que c'est vraiment intéressant de porter un regard aujourd'hui, j'ai envie de dire admiratif, voilà, il faut le faire, sur cette période-là, sur les gens qui ont mené les luttes à cette période-là.
Et aujourd'hui, il y a tout un essor de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire en milieu rural. La SCOP, la CIC, c'est bien là, semble-t-il, que s'invente le modèle de l'avenir.
Oui, j'en ai l'intime conviction. Et je pense que, enfin voilà, il y a déjà un certain nombre de médias qui font de la veille là-dessus. Je pense à Kaizen, je pense à Village, je pense à Carnet de campagne. Et oui, on a la nécessité. Et je pense que, pour le coup, c'est vraiment une nécessité quand on crée un business en zone rurale, d'imaginer son impact social, de construire, parce qu'on a besoin d'entraide, on a besoin de liens avec d'autres structures pour pouvoir faire. Donc nécessairement, on est aussi appelé, y compris des gens qui n'ont pas forcément cette culture au départ, à envisager ces outils de coopération, parce qu'ils sont qui sont le plus adaptés à nos besoins et à nos contraintes. Donc ça, je pense qu'effectivement, on a une capacité de développer des initiatives dans le cadre de l'économie sociale et solidaire dans les territoires qui est assez exemplaire. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, hein, c'est-à-dire que le pourcentage de salariés de l'ESS dans les territoires ruraux est déjà supérieur à ce qu'il est dans les territoires urbains. Et pourtant, dans les grandes villes, on trouve les très grosses mutuelles, des grandes coopératives, donc qui plus est des grands employeurs. Donc, on sait qu'on a un maillage territorial de petites structures de l'ESS assez important pour pouvoir représenter un pourcentage conséquent des salariés sur les territoires.
Oui, donc on peut dire que si ces modèles coopératifs, SIC, SCOP, etc., existent autant aujourd'hui dans les milieux ruraux, c'est autant par nécessité que par envie de réflexion collective et coopérative. Une gestion, monter un commerce aujourd'hui, une épicerie dans un tout petit village, sans avoir de dimension collective, et imaginer sa gestion comme il y a 30 ans, ça semble dépassé aujourd'hui.
C'est surtout enfin moi, c'est ce que j'appelle la révolution par le fait. C'est-à-dire que peu importe ce qui amène les gens à la campagne, en vérité, ils seront tous confrontés à la même chose, aux mêmes contraintes et aux mêmes opportunités. Et par exemple, le rapport à la consommation, ça me fait beaucoup rire quand je vois les petits tutos zéro waste des centres urbains où il y a une sorte de petite pyramide et puis on vous dit bah quand vous avez besoin de quelque chose d'abord vous demandez à l'emprunter un de vos voisins, si c'est pas le cas vous essayez de trouver un espace de location en communauté partagée, sinon vous essayez de le trouver en seconde main, puis à la fin si vous trouvez pas ça bah vous allez l'acheter. À la campagne c'est pas un processus intellectuel, c'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose parce que c'est pas facile nécessairement d'aller l'acheter au supermarché qui est un peu loin. La première chose qu'on va faire, c'est demander à ses voisins s'ils ne peuvent pas nous le prêter. Ensuite, d'aller demander au hameau du coin ou au village si ça n'existe pas dans le groupe interassociatif le matériel dont on a besoin. Puis, essayer de regarder sur le bon coin s'il n'y en a pas un plus près, mais avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Et à la fin, si vraiment on n'a pas la solution, ben on va faire 20 bornes et puis on va aller l'acheter. Et voilà. Et donc ça, je pense que ça fait partie. Exactement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on vient pas forcément à la campagne en se disant je vais changer définitivement mon rapport à la consommation d'un produit fini dans un magasin, mais par contre bah de fait En plus, quand on va emprunter un truc à un voisin, ben, on discute, on papote, ça fait du lien social, ça fait de l'entraide. Il nous a prêté un truc en échange, on lui en prêtera un la fois d'après, donc ça crée de la réciprocité. Et en vérité, on est beaucoup plus heureux d'avoir emprunté et prêté et échangé que d'avoir acheté. Donc évidemment que on se dit, enfin, je trouve que c'est d'autant plus fort que ça n'est pas intentionnel. Et c'est la même chose pour l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est d'autant plus fort que quand on se rend à l'évidence que ben, il faudrait mieux qu'on se débrouille ensemble pour faire le truc, plutôt que d'essayer de le faire tout seul, parce que si on le fait tout seul, ça ne va pas marcher. Alors bien sûr que c'est bien aussi d'être orienté par, on va dire, par une culture de l'économie sociale et solidaire et de vouloir mettre en œuvre ces principes, mais si on attend qu'il y ait des personnes qui se soient sensibilisées, acculturées, formées aux outils de l'ESS pour monter des projets, ça avancera pas très très vite. Alors que si les gens se rendent seuls à l'évidence que, ben oui, ensemble, c'est mieux. Et donc, comment on peut faire ensemble? Ah, il y a peut-être des outils juridiques qui peuvent nous y aider. Forcément, ça change la donne et ça peut la changer de manière assez, assez franche et assez massive, en fait.
On retrouvera Claire Desmarres-Poirier dans le prochain épisode pour la deuxième et dernière partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver son bouquin dans toutes les bonnes crèmeries. Ça s'appelle « L'exode urbain, manifeste pour une ruralité positive » et c'est paru aux éditions Terre Vivante. Un grand merci à Rix pour l'habillage musical. L'Avenir est à la campagne est un projet artistique de territoire concocté par la compagnie Les Funambules, soutenu par l'Été de Vaour, en partenariat avec la Drac Occitanie, la 4C, l'Ada du Tarn, le Théâtre du Colombier, CFM Radio et la Talbert. Pour nous contacter, une adresse mail, avenircampagne@lesfunambules.fr. À très vite pour la suite.
L'avenir est à la campagne.